On a vécu la Sainte-Seine maintenant. La présence de Dieu était tellement forte. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Alors, souvent, la Sainte-Seine, c'est le point culminant du culte. On vit quelque chose qui se passe de mots. Dieu est en train de faire quelque chose profondément. Ça se passe de mots. Mais voilà, il y a le message maintenant. On va continuer de manger. Et vraiment que l'Esprit Saint fasse le tri. Il a été beaucoup question de présence de Dieu ce matin. Déjà dans les paroles, Jérôme qui nous disait que la présence de Dieu, finalement, c'est le plus important à l'issue de son témoignage. Dans les chants qui ont été partagés. Ritz qui, quand il a prêché la semaine dernière, il parlait du royaume de Dieu, il a notamment parlé de la présence de Dieu quand elle se manifeste. La dernière fois que j'apportais le message, je parlais de la promesse de Dieu. Et finalement, qu'est-ce que Dieu nous promet en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet sa présence pleine et entière. Et c'est sa présence que nous cherchons, c'est sa présence que nous voulons. C'est sa présence que nous voulons parce que nous sommes faits pour accueillir la présence de Dieu. Nous sommes faits pour être habités de Dieu, pour être habités de sa présence. C'est vrai, il y en a qui accueillent la présence de Dieu. Il y en a qui ne l'accueillent pas. Mais ça, c'est Dieu qui sait. Seul Dieu sonde les cœurs. Nous n'en savons rien. Mais nous devons partir du principe que nous sommes tous faits pour être habités de la présence de Dieu. Que nous sommes tous faits pour accueillir cette présence de Dieu. Dieu veut venir vivre en chacun. Et cette présence de Dieu, c'est la source de notre vie. Et c'est ça, ce sera le titre du message que je vais donner ce matin. La présence de Dieu, source de la vie. Quand on vit des moments comme ça dans le culte, il se passe quelque chose. Quand on vit des moments où on est conscient de la présence de Dieu, il se passe quelque chose. La présence de Dieu, elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais il y a des moments particuliers où cette présence de Dieu, on en est conscient. Voire jusque des fois même à la ressentir. On en est conscient. Donc vous avez compris cette présence de Dieu dont je veux parler ce matin. Et quand je parlais de la promesse, du chemin vers la promesse de Dieu, donc qui est la présence de Dieu, je disais qu'il y a deux facettes finalement à ce chemin. C'est un chemin qui est fait de combats, d'adversités, de tiraillements, de tensions. Ça peut aller jusqu'à des divisions parfois. Et tellement ça nous tiraille quand on les gère pas comme on devrait les gérer, on va dire, avec l'Esprit de Dieu. Et puis c'est un chemin qui est fait en même temps de moments de paix, de joie, de vraie unité. Des moments finalement qui sont des moments d'expérience de la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu, elle est faite de moments de combat spirituel. Aller vers la présence de Dieu, chercher la présence de Dieu, vouloir accueillir la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu, c'est fait de combats spirituels et de moments d'expérience de la présence de Dieu. En fait, c'est un travail. C'est un travail avec ces moments aussi de récompense, on va dire. Ou ces moments de salaire, je ne sais plus. Mais c'est un travail. Et d'ailleurs, Paul dit à un moment à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi. » C'est bien qu'il y a une notion d'effort qui ne repose pas sur nos propres forces, on est d'accord, mais ça repose sur un effort de notre part. Et je voudrais parler ce matin d'un homme qui a travaillé à accueillir cette présence de Dieu, un homme qui a rencontré Dieu, qui s'est laissé rencontrer par Dieu, qui a connu la présence de Dieu et qui a travaillé à se tenir tout le temps dans cette présence de Dieu, à progresser dans cette présence de Dieu. et qui à un moment aurait pu d'ailleurs sortir de cette présence. Cet homme, c'est Moïse. Et ce moment où il aurait pu sortir de cette présence, c'est un moment qu'on peut retrouver au chapitre 18 de l'Exode. Et je vais lire le texte à partir du verset 13. Donc, le chapitre 18 de l'Exode au verset 13. C'est le lendemain où Jéthro, qui est le beau-père de Moïse, est venu rendre visite à Moïse. Il a entendu les exploits que Dieu a fait pour délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Et il ramène à Moïse sa femme et ses enfants. Et là, ils se réjouissent ensemble, ils font des sacrifices, enfin voilà, ils se réjouissent de ce que Dieu a fait. Et le lendemain, Jéthro voit comment Moïse concrètement conduit ce peuple. À partir du verset 13. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit « Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi sièges-tu tout seul ? Et pourquoi tout le peuple se présente devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. » Aïe, ça fait mal ça. « Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant écoute-moi, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Première chose, sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Et deuxième chose, choisis parmi tout le peuple, des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête, établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Et effectivement, c'est ce que Moïse va faire. C'est ce que Moïse va faire. Mais si Moïse n'avait pas écouté ce conseil, il se serait épuisé et le peuple avec lui, et ça aurait été au détriment de la communion qu'ils avaient tous avec Dieu. Ça aurait été au détriment du fait que Moïse se tienne dans la présence de Dieu. Et quel est le conseil de Jéthro ? La première chose, c'est sois le représentant du peuple devant Dieu et porte les affaires devant lui. Ça veut dire, mais prends le temps de la présence de Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Et de tout le reste va découler. Et pour que tu puisses te tenir dans la présence de Dieu, il faut que tu délègues à d'autres. Tu peux pas tout faire tout seul. Et en fait, Moïse répond à Jéthro qu'il est là pour... tout le peuple se présente devant lui, donc il est là pour enseigner les lois de Dieu. Sauf que Moïse, là, il n'est pas en train de respecter la loi de Dieu. Il n'est pas en train de respecter les lois spirituelles de Dieu. Vous savez, on a entendu il y a 15 jours parler des lois spirituelles. C'est quoi les lois spirituelles ? Les lois spirituelles, c'est ce qui ordonne notre vie. Les lois, ce sont des ordres. Ça ordonne notre vie. Hein, ce sont des rails sur lesquels le train que nous sommes est lancé. Et si nous ne suivons pas ce qui ordonne notre vie, eh ben, du coup, on peut dérailler. On peut dérailler. Et la présence de Dieu se développe à partir du moment où ces ordres de vie de Dieu, ils sont respectés. Et c'est ce qui se passait pour Moïse. Jéthro regardait comment il fonctionnait, il regardait plutôt comment il dysfonctionnait. Parce que ce n'était pas ordonné selon que la vie que Dieu ordonne. Et Dieu, c'est la vie. Et Dieu ordonne la vie pour qu'elle se développe. Et la vie, La source de la vie, c'est la présence de Dieu. Et nos vies, elles sont en désordre. Les vies des êtres humains sont en désordre. Depuis que l'homme s'est coupé de Dieu, sa vie est en désordre. Alors il y a la puissance du péché. Et désordre, on pourrait même l'écrire de deux manières. Désordre. Des ordres différents des ordres de vie de Dieu, des lois spirituelles de Dieu, des ordres qui en fait désordonnent notre vie et font qu'on ne peut pas accueillir, on n'accueille pas la présence de Dieu comme il se doit et comme elle pourrait nous restaurer. Merci Seigneur parce que par ta parole, tu nous montres tes lois spirituelles, tu nous enseignes tes lois spirituelles. Par exemple, Jésus, un moment dit, Jésus qui a amené la parole de Dieu comme personne d'autre parce qu'il est la parole de Dieu. Et ce matin, si tu ne connais pas Jésus-Christ, que tu puisses vraiment entendre cela et le recevoir. Jésus est la parole de Dieu, incarnée. Un moment, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, l'ordre est important. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, Jésus est en train de donner une loi spirituelle, un ordre de vie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire, c'est d'abord Dieu. D'abord, j'aime Dieu. Ensuite, je m'aime moi, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. D'abord Dieu, je m'aime, j'aime Dieu, je m'aime, j'aime mes proches, mon épouse, mon mari, mes enfants, ma famille, mes amis, mes frères et sœurs dans la foi, etc. Tout dépend comment on se situe, jusqu'à mon prochain, mon voisin, mon collègue. La personne que je ne connais pas, l'autre. Dieu, moi, mes proches, mon prochain. C'est dans cet ordre. Si je suis, Dieu m'a aimé le premier. L'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu, justement. Si Dieu, c'est parce que Dieu il a été présent pour moi, il est présent pour moi, que je peux être présent à lui. Si je suis présent à lui, je suis présent à moi-même et je m'aime vraiment. Si je suis présent à moi-même et que je m'aime vraiment, j'aime vraiment mes proches et je suis présent à eux. Et si j'aime vraiment mes proches, si je suis véritablement présent à mes proches, je peux être vraiment présent aux autres. Ça, c'est une loi de vie. Et Dieu ne se contredit pas. Parce que vous savez, on pourrait dire des fois, je donne de la place à Dieu en le servant à un maximum. Sauf que si c'est au détriment de soi-même et au détriment de mes proches, je ne suis pas dans l'ordre de vie de Dieu. C'est un désordre. Parce que ça ne permet pas à la vie de Dieu de se déployer. Voilà pour donner l'exemple d'une loi spirituelle, d'un ordre de vie de Dieu, qui d'ailleurs était celui que Moïse ne respectait pas tout à fait là. Parce qu'il mettait le peuple, d'ailleurs vous avez remarqué, sa famille n'était pas là, donc du coup il n'avait pas forcément à s'en occuper, là c'était son beau-père qui s'en occupait. Donc il pouvait mettre le peuple avant, sauf qu'il mettait le peuple même avant lui et avant quelque part le temps qu'il avait, le fait de se tenir dans la présence de Dieu. Je voudrais vous témoigner là de moi ce que je vis depuis quelques mois. Depuis quelques mois où j'ai repris la responsabilité de l'église. J'étais quelqu'un qui a toujours fonctionné du matin jusqu'au soir à tout le temps accomplir les tâches que je devais accomplir. Beaucoup dans le faire. Et du faire, j'en trouve beaucoup, que ce soit dans le ministère, dans la famille. Vous voyez, je mets même pas les choses dans l'ordre d'ailleurs quand je parle. Mais voilà, pourquoi c'était comme ça ? Parce qu'il y avait des choses dans ma vie, des choses que je portais, qui fait que quelque part, je m'interdisais la présence des autres. Je m'interdisais la présence, d'être pleinement présent à ma femme, d'être pleinement présent à mes enfants, juste comme ça, dans leur présence. J'étais tout le temps, il fallait tout le temps que je fasse quelque chose. Et pour moi, j'étais présent à eux quand j'étais dans l'activité, quand on faisait des activités. Mais Dieu m'a montré que ça n'allait pas. Alors, et puis, bien sûr, c'est important de prendre des temps dans la présence de Dieu. Alors, j'en prenais des temps dans la présence de Dieu, au travers de la louange. Sauf qu'il y a des moments, quand vous êtes tout le temps en train de vous préoccuper, il y a des moments où vous êtes seulement en train de chanter, vous n'êtes pas en train de louer. Je prenais des temps dans la présence de Dieu quand je méditais la parole. Bien sûr, il y avait des moments où je vivais la présence de Dieu. Sauf que quand vous fonctionnez beaucoup avec votre âme, à un moment, ça ne devient que de l'étude. Et du coup, j'essayais de prendre aussi des temps tout le matin avant de commencer ma journée. Mais la réalité fait que si j'avais passé une mauvaise nuit, par exemple, c'était squeezé, quoi. Mais tout ça pour vous dire, Dieu m'a repris par rapport à cela et m'a dit, mais mon gars, mon fils, si tu continues comme ça, tu fonces dans le mur. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu dois prendre des temps dans ma présence. Et j'ai reçu de prendre toutes mes matinées au maximum dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole, mais la méditation de la parole où je cherche sa présence. Et d'une manière qui n'est pas évidente, parce que ce que le Seigneur m'a dit, c'est de le faire dans le silence. De le faire dans le silence. Dieu a toujours le chic pour trouver la bonne chose dont on a besoin. Pourquoi c'est difficile le silence ? Parce que le silence, pour moi, c'était synonyme de vide, de mort. Il fallait tout le temps que je le remplisse. Jusqu'à ce que je comprenne que le silence, c'est un moment de présence de Dieu. Le silence, souvent on en a peur, mais le silence, c'est justement là où la présence de Dieu peut se manifester dans sa pureté. Je suis là avec lui, j'accepte de perdre mon temps, entre guillemets, perdre. Je suis tout simplement conscient de sa présence. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, quand vous êtes comme ça, dans le silence, tout ce que vous voulez, c'est être dans la présence de Dieu. Il y a des moments où vous avez toutes vos pensées qui tournoient, qui s'agitent, parce que votre âme, elle a peur du silence. Il faut qu'elle s'exprime. Et c'est pas grave. Ce que j'ai appris finalement, c'est à laisser mes pensées, être là. Et puis, moi, tout ce qui est important, c'est que je sois conscient que Dieu est là, que Dieu vit en moi. Et là, il se passe des choses. Alors voilà comment, en tout cas, pour moi, Dieu est en train de me réformer. Parce que je le vis vraiment comme ça au niveau de ma vie de prière. Je ne peux pas conduire l'église si je ne vis pas cela. Merci. Alors bien sûr, moi je suis pasteur, c'est ma vocation. Donc je peux dédier une partie de mon temps à chercher à être encore plus dans la présence de Dieu. On a tous nos réalités. On travaille du matin jusqu'au soir. La plupart sont dans un travail séculier. Donc on ne peut pas chercher la présence de Dieu ou consacrer du temps à la présence de Dieu de la même manière. Puis moi, je vous parle du silence, c'est une manière parmi d'autres. Il y a plein d'autres manières. J'ai parlé de louange, j'ai parlé de méditation de la parole. Il y a plein d'autres manières encore. Que le Seigneur il puisse nous conduire chacun à partir de notre réalité, sur la manière de se tenir dans sa présence. Que le Seigneur puisse te conduire sur la manière que tu as besoin de recevoir pour que tu puisses te tenir encore plus dans sa présence. Et peut-être qu'il y a des choses que nous avons effectivement à réordonner dans nos vies. Il y a des ordres de vie, des lois spirituelles que l'on ne suit pas, et c'est pour ça que cette présence de Dieu à laquelle nous aspirons tant, elle n'est pas autant là que nous souhaiterions. On l'a entendu ce matin, à quel point nous aspirons à cette présence de Dieu, n'est-ce pas ? Amen. Mais c'est dire, parce que moi je suis au début d'un chemin, donc je ne peux pas vous parler, mais je vois déjà des choses qui se passent dans ma vie. Je vois déjà des choses qui se passent dans ma vie. Quand tout simplement je pratique la présence de Dieu, Dieu agit. Et c'est ce que Moïse a compris. Et je voudrais, pour conclure, juste lire ce texte qui concerne aussi Moïse, où on voit qu'il y a eu un chemin de fait pour lui. On voit l'impact de cette présence de Dieu dans sa vie. C'est Nombre 13. Nombre 13, à partir du verset 1. Et voilà ce qu'on lit. L'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. » Moïse envoya ces hommes du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Et je nous fais grâce des noms des 12 espions pour aller jusqu'au verset 17. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne, examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays. Et j'arrête la lecture ici. Donc ils vont faire finalement tout ce que Moïse va ordonner. Et pourquoi Moïse a pu recevoir cela ? C'est parce qu'il s'est tenu dans la présence de Dieu. Il a continué de se tenir dans la présence de Dieu en réordonnant sa vie comme Jéthro lui a conseillé. Et il a pu recevoir la parole de Dieu. Il a pu recevoir la direction de Dieu pour aller vers la promesse. En recevant cette première étape dans cette stratégie qui est d'envoyer 12 espions. Et ces 12 espions voient tellement l'impact de la présence de Dieu qu'il y a chez Moïse, qu'ils obéissent, qu'ils se lèvent, qu'ils répondent présents, ils tiennent leur rang de prince, ils répondent présents et ils y vont. Ils y vont parce qu'ils voient la présence de Dieu dans la vie de Moïse. Donc on voit l'impact que la présence de Dieu peut avoir à partir du moment où effectivement on réordonne notre vie selon ces lois de Dieu. À partir du moment où je prends le temps de l'invisible avec Dieu, c'est là qu'il se passe des choses dans le visible. Ça, c'est le chemin de Dieu. C'est la clé. D'abord l'invisible avec Dieu, et ensuite le visible. C'est comme ça qu'ils ont reçu la stratégie pour entrer dans la terre promise. Et c'est la même chose pour nos vies. D'abord la présence de Dieu, l'invisible. Et ensuite, des choses, on reçoit les directions, les actions pour nos vies. Et c'est la même chose pour cette Église, pour qui il y a une promesse. Il y a un chemin de Dieu qui tire sa source de la présence de Dieu. Alors mes amis, mes frères et sœurs, que l'on puisse pratiquer cette présence. Si tu es là ce matin, tu ne connais pas cette présence de Dieu, tu y aspires, tu ne connais pas Jésus-Christ, je t'invite à le recevoir dans ton cœur, à le recevoir dans ta vie. Il est mort pour cela. Il est mort, il est ressuscité pour que tu puisses vivre la présence de Dieu en toi par son esprit. Et que chacun en puisse aspirer à cette présence de Dieu, en laissant le Seigneur examiner nos vies et réordonner selon ce qu'il nous dit. Il y a une vie tellement en abondance. Terminé par la prière. Seigneur, j'essaye de traduire en mots des choses qui nous dépassent tellement. Nos mots sont si faibles pour parler de ta présence qui nous dépasse tellement. Mais ces mots, tu nous les as donnés. C'est aussi au travers de cela que tu te manifestes, que vraiment tu ancres dans nos vies à chacun ce que toi tu veux dire au travers de ce qui est vécu ce matin, au travers de ce qui est dit là ce matin. Seigneur, nous aspirons à ta présence. Ta présence, c'est la vie. La vie sans ta présence, ça n'est pas la vie. C'est le désordre. Et c'est même la mort. Seigneur, je te remets chacun, chacune ici, que nous puissions aspirer à ta présence. Réordonner les choses non seulement dans nos vies, mais aussi entre nous, selon tes lois. Seigneur, fais-nous du bien par ta parole, bénis-nous par ta parole, enseigne-nous par ta parole. Je te remets chacun ici, je bénis chacun, Seigneur, ici en ton nom. Merci, merci pour ta présence, parce que tu es continuellement là. Finalement, ta présence, c'est ce que veut dire un présent, c'est un cadeau. Je te remercie pour ce cadeau de ta présence. Rémi disait qu'on puisse s'émerveiller. Qu'on puisse s'émerveiller, effectivement, Seigneur. Regardez à ta présence, qui est ton cadeau. Amen.